Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Et nous recevons un grand explorateur. En 1986, c'est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. Il tire lui-même son traîneau pendant 63 jours, par des températures extrêmes, jusqu'à moins 52 degrés, une expérience du froid et de la solitude totale qui lui enseigne l'une des vertus cardinales pour mener sa vie, la persévérance. Plus tard, entre juillet 1989 et mars 1990, il co-dirige la plus longue traversée de l'Antarctique jamais réalisée et tout au long de sa vie, une vingtaine d'expéditions, avec un leitmotiv, nous alerter sur la fonte de la banquise, un risque mortifère pour notre planète. Le docteur Jean-Louis Etienne est donc notre invité et autour de cette table, nous sommes ravis d'accueillir un honnête homme qui, à l'aune de ses aventures scientifiques et humaines, peut éclairer notre vie quotidienne et pourquoi pas nous délivrer quelques pistes pour cultiver une existence épanouie avec un maître mot peut-être pour y parvenir, l'autonomie, être autonome, se prendre en main pour enfin devenir soi. Mes complices aujourd'hui, le psychiatre Christophe André et la journaliste de Femme Actuelle, Marie-Laure Sunshine. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Tu es au pôle. Ça y est, tu es au pôle. 89, 59 et des poussières, 4 degrés ouest.
5h du matin, dimanche 11 mai 1986, Jean-Louis Etienne a gagné son pari. Le marcheur solitaire n'a plus qu'à attendre l'avion qui, après 10 heures de vol, l'arrachera à la banquise. Non, maintenant, il peut en toute quiétude planter le drapeau français pile au point 90 degrés, le pôle Nord. La terre lui tourne sous les pieds et le champagne lui tourne la tête.
Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir. J'étais admiratif de vos exploits quand j'étais adolescent. On vient de l'entendre là en 1986. Vous êtes médecin, explorateur, écrivain. Vous êtes né en 1946 dans le Tarn. Il semble que le froid du pôle Nord et de l'Antarctique vous conserve plutôt bien. Vous avez dirigé l'Institut océanographique de Paris et le Musée océanographique de Monaco. Vous avez participé à une vingtaine d'expéditions partout dans le monde avec, parmi vos missions, nous alerter sur le réchauffement climatique et vous publiez Oser l'autonomie avec un point d'exclamation chez Rustica Édition. Alors, en 1986, c'est l'année de la première cohabitation Mitterrand-Chirac, de la catastrophe de Tchernobyl, de la mort de Coluche et de Simone de Beauvoir. C'est l'année de la sortie de l'album True Blue de Madonna et le triomphe au cinéma de Jean de Florette. Et c'est surtout pour vous l'année de votre première expédition dans le pôle Nord.
Oui, c'est une date historique pour mon existence, pour ma constitution, je dirais, parce que j'ai été pendant 10 ans médecin d'expédition, 12 ans même, donc c'est comme ça que j'ai été pour la course autour du monde avec Tabarly, des expéditions à l'Himalaya, à l'Everest, partout pendant 12 ans. Et à un moment donné, à 38 ans, je me dis maintenant, faut que je fasse la mienne, histoire de clôturer ces années d'aventure, comme ça. Et le pôle Nord s'est imposé comme quelque chose que je pouvais réaliser. C'est pas technique le pôle Nord. Le pôle Nord est au milieu de l'océan gelé, donc on marche sur la banquise qui est très chaotique, très abîmée, c'est vrai, il fait froid, mais c'est tirer son traîneau, si vous voulez, on n'a pas besoin de faire des stages, quoi. On vous l'accroche à la taille, vous comprenez tout de suite, mais c'était. J'étais déjà habitué aux conditions difficiles, quoi. J'avais connu des bivouacs, des tempêtes, etc. Donc le climat, c'était quelque chose qui ne me faisait pas peur, je savais que c'était long, mais j'avais cette endurance déjà ancienne, si vous voulez. Et donc, je l'ai tenté une première fois en 85. J'ai échoué au bout de 15 jours. J'ai découvert que c'était beaucoup plus compliqué que je n'imaginais. Mais j'avais découvert que j'avais certainement des solutions à apporter à mon matériel. Et j'y suis revenu en 86, effectivement, et après 63 jours, j'ai réussi. Ouais.
Au cours de cette aventure en solitaire, vous tirez donc votre traîneau pendant 63 jours par des températures pouvant atteindre moins 52 degrés. Pourquoi vous infligez de telles conditions extrêmes ?
Ben, si vous voulez aller au pôle Nord, on n'y échappe pas, quoi. C'est en fait la basse température qui en fait le désert. Comme les chaleurs extrêmes font celles des déserts chauds, si vous voulez, le froid maintient ce désert. En fait, j'allais chercher un désert. J'allais chercher aussi une conquête personnelle. J'avais fait la course autour du monde, le Cap Horn, l'Everest, vous voyez tout ça. Je voulais faire mon histoire personnelle. Et le froid fait partie du décor. Mais vous savez, quand vous tirez un traîneau qui est lourd, que le parcours est chaotique, même s'il fait très froid, c'est pas un problème. Le froid vous tombe dessus quand on s'arrête. C'est là que ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas de chauffage sous la tente.
Je vous cite Jean-Louis Etienne, le froid s'apprivoise et m'apprivoise. Ses effets transforment le corps et l'esprit. Il m'apprend à vivre avec moi-même. Il me révèle quelque chose et je ne sais pas exactement quoi.
Oui, je sais pas exactement quoi. Bon, j'avais l'expérience déjà des conditions difficiles. Quand vous campez, qui fait moins 52, ça c'est une mesure au thermomètre sous la tente, donc, à l'abri du vent, c'est pas du ressenti, c'est la réalité. Et donc, bien, je savais ce que c'était que l'hypothermie, et je savais que mon corps était, la température de mon corps descendait, parce que j'avais tout dessus, j'étais à la limite de l'isolation que je pouvais m'offrir. Et donc je maintenais, on meurt de froid quand on est au bout de la lutte. Mais j'étais en forme, vous voyez. Mais je savais que j'étais érodé par ça, et donc je faisais des tables de multiplication, je faisais des choses pour me dire, je maîtrise, je suis bien. Vous voyez, si vous faites cette fois 5, vous n'avez pas 35, bon, il faut connaître la table de multiplication, c'est la base quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je m'imposais comme ça des tests pour voir que j'étais bien conscient.
Mais qu'est-ce qui se passe quand on se réveille par moins 48 degrés sous la tente?
Et écoutez, on se tourne un peu.
Et surtout quand on renverse son thé chaud sur son sac de couchage avec des très gros risques.
Mais avant de renverser le sac, il fait très froid, on le sait tous, c'est pas la peine d'aller si loin, on a une envie de pisser fréquente. Voilà. Parce qu'en fait, le corps sacrifie la périphérie, c'est-à-dire ferme les robinets de circulation sanguine à la périphérie. Donc il y a une masse de sang beaucoup plus importante à gérer. Donc les reins filtrent, on pisse beaucoup. Et là, sous la tente, les hommes ont la chance de pouvoir pisser dans une boîte étanche. Donc je pissais dans la boîte que je refermais sans sortir du sac de couchage, conserver toute ma chaleur.
Et ça peut servir de bouillotte.
Et ce petit instant fait que l'urine chaude sert de bouillotte.
Christophe André.
Vous parliez tout à l'heure des tables de multiplication, pour garder l'esprit en éveil aussi. Mais alors, c'était quoi votre vie intérieure, là, les journées entières, 63 jours à tirer votre chariot, vos vivres? Au fond, on sait que dans la vie courante des personnes qui ne sont pas au pôle, 80 à 90% de nos pensées sont des pensées triviales. La liste des courses, aller chercher les enfants à l'école, ces trucs-là. Mais quand on est en train de marcher vers le pôle Nord, qu'est-ce qu'on a dans la tête tout au long des journées?
C'est une bonne question. C'est vrai que si on va au péage d'une autoroute de quelqu'un qui a fait Paris-Lyon et à Lyon, on dit à quoi vous avez pensé? On a des pensées automatiques, on ne se souvient pas forcément, à part quelques pensées. Là, au début, je pensais à ne pas abandonner. Vous voyez, j'étais très obsédé par les difficultés que j'avais complètement sous-estimées de la table banquise. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé à peu près comment concilier ce parcours avec l'état de la banquise et du froid. Alors, je me fixais des étapes. Je me souviens d'un jour, c'est le 1er mai, et je dis, tiens, je vais offrir, c'était l'anniversaire de mon père. Je dis, tiens, je vais offrir cette journée à papa. Vous voyez, c'est des petits trucs auxquels se raccrocher. En fait, il faut se déshabituer du monde. Vous voyez, quand on part au Pôle Nord en solitaire, d'abord on n'y va pas pour être seul, vous allez me comprendre, on y va pour être le seul. Donc il y a une démarche personnelle, il y a une ambition, vous voyez, de réussir cette démarche-là. Et en fait, on est victime, c'est pas le Tour de France, hein. Il y a personne à côté qui dit « allez, allez, allez ». Donc il y a que son envie à soi qui te dit « allez, 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 vas-y ». Jusqu'à un moment donné où on découvre les lieux, et j'ai eu cette image à un moment donné, mais putain, je suis ce petit homme qui va au pôle Nord, qui en avait rêvé. Et revenir, moi j'appelle ça remettre le rêve à la surface. C'est fondamental, c'est cette expérience-là des expéditions, ne pas perdre de vue pourquoi on est venu, qu'est-ce qui vous a mobilisé, qu'est-ce qui vous a alimenté pendant ces années de préparation.
Et vous racontez qu'enfant, vous avez conclu un pacte secret avec le pôle Nord.
Ah, je pense, c'était tellement fort cet appel, que c'était naturel. Ce sentiment que ma vie aller passer par le pôle Nord, cette conquête du pôle Nord. En fait, c'était ma conquête personnelle, vous savez, je n'ai rien conquis, simplement la force d'y aller et tout ce que ça a apporté derrière.
Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, durant ces 63 jours, vous avez dû passer par des moments de joie, d'intense émotion, aussi probablement de découragement. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur vous-même?
Qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves, même si le chemin est difficile. Parce qu'en fait, on est tellement mieux en se consacrant aux choses que l'on aime, si vous voulez. Et donc, ça m'a appris, et ce que j'aime bien raconter à tout le monde, ce pôle Nord, c'était une lumière qui s'allumait en moi, vous voyez. Je me suis dit, ça, ça va être mon truc. Et ça, c'est précieux. Hein, la petite lumière qui s'allume sur quelque chose où vous dites, bon sang, mais oui, c'est ça. Quand, moi, j'appelle ça quand les lundis ressemblent à des vendredis, vous voyez. On y va, voilà. Et ça, c'est précieux. Mais ça veut dire que c'est pas parce que ça vous anime que c'est facile, vous voyez. Donc, il faut y consacrer du temps, du travail, de la persévérance.
Persévérant, justement, c'est un mot qui revient comme un leitmotiv tout au long de votre vie. C'est un mantra, la persévérance. Pour le Robert, la persévérance, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi accroché à cette persévérance?
C'est mon parcours qui me l'a appris. En fait, vous savez, moi, donc vous avez évoqué, je suis médecin, mais avant, j'étais tourneur-fraiseur. J'ai fait une formation de tourneur-fraiseur, donc je me suis révélé à moi-même par le travail manuel, une confiance scolaire qui est revenue par le travail manuel, donc d'un CAP de tourneur-fraiseur. Et donc après, donc on a dit, ce gars, il peut faire autre chose. Donc j'ai passé le bac et j'ai fait médecine. Puis après, j'étais interne en chirurgie. Mais les histoires de faire des expéditions, c'est quasi constitutionnel. Moi, je suis né à la campagne, d'un village de 1000 habitants, dans le Tarn, tout petit village. Et derrière chez moi, il y avait les forêts. J'aimais camper, j'aimais vivre dehors. J'avais des animaux apprivoisés. Et donc la nature, si vous voulez, c'était quelque chose qui était le refuge à l'enfant timide que j'étais. Et en même temps, c'était une toise à mes ambitions. Monter sur un peupilier pour aller chercher une pie au mois de mai, là, un peu plus tard. Maintenant, ça va être la saison. Si vous voulez apprivoiser des pies, c'est sympa, une pie apprivoisée. Il faut monter la chercher quand elle est encore dans le nid. Voilà. Et donc, ça, c'était une aventure extraordinaire. Et donc, cette envie de faire des expéditions est revenu, puis je me suis dit, mais je suis médecin, j'étais interne en chirurgie, je savais, je pouvais rendre des services, et c'est comme ça que j'ai proposé à Tabarly, à l'Everest, etc.
Enfin, vous êtes un peu fou parce que vous refusez un poste d'assistant à l'université pour suivre Éric Tabarly pour la course autour du monde.
Oui. Oui, j'étais revenu à la fac, j'étais assistant d'université, c'est vrai. Et Éric Tabarly, que j'avais contacté, j'ai dit, je suis médecin, je suis sportif, je peux y consacrer du temps, il m'a écrit, à un moment donné, j'étais à la fac. Et je reçois ça au mois de février, j'ai dit, ben j'y vais.
En fait, on n'empêche pas une mouette de prendre le large.
Ça, c'est Moitessier qui l'avait écrit. J'avais écrit ça sur ma chambre. On n'empêche pas une mouette de prendre le large. Mais voyez, quand je me retourne sur mon parcours, aujourd'hui, j'ai 72 ans, je me rends compte, en fait, que j'ai abandonné des choses que j'avais acquises pour de nouvelles explorations, pour de nouvelles choses qui me tenaient à cœur. Et ça, c'est quelque chose dont j'aime bien parler. Ne sacrifiez pas votre vie pour mettre de côté quelque chose que vous avez envie de faire. Il est là le capital. Le capital ressource, il est dans ce désir-là. Et les gens me disent souvent, mais moi j'ai pas de rêve, j'ai pas de désir. Attendez, creusez un peu, il y a peut-être quelque chose là que vous avez laissé sous le paillasson. Et ça c'est précieux. On voit aujourd'hui des gens qui ont fait un parcours universitaire, un début de parcours professionnel prometteur, et qui décident de revenir à des aspirations de jeunes plus, qui sont moins glorieuses peut-être dans le parcours d'un homme dans l'humanité, mais qui sont ceux dont vous avez besoin et qui vont vous nourrir. Et à partir du moment où vous êtes sur ce chemin-là, sur cette racine, votre ambition, vos talents, votre expérience, votre envie d'eux, elle s'épanouit beaucoup plus que dans quelque chose que vous aimez moins et qui est contraint.
Il y a des grandes figures qui vous ont nourri tout au long de votre vie. Il y a Éric Tabarly, évidemment, et puis le vulcanologue Haroun Taziev, le père Jaouin, l'explorateur Paul-Émile Victor. Il est essentiel de s'entourer, de rencontrer de personnalités inspirantes.
Ben, ça fait du bien, les personnalités inspirantes, si vous voulez. Le père Jaouin, vous l'avez évoqué, c'est un jésuite qui avait un bateau qui s'appelle le Bel Espoir. On partait, moi j'étais médecin à bord, on traversait l'Atlantique avec des toxicomanes et des sorties de prison. Donc c'était une clientèle difficile, quoi. Hein. Et le père Jaouin avait un foyer ici à Paris et il filait à bouffer, le père Jaouin. Il disait, quand on a l'estomac plein, ça va beaucoup mieux, quoi. Donc il donnait à manger. Et Jaouin avait cette force-là, cette aptitude qui m'a transmise. C'était des gens cabossés par la vie, hein, qu'on recevait, quoi. Et Jaouin voyait derrière la carrosserie abîmée, comme ça, puis un peu rebancharde, quelque chose qu'il y avait à sauver, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris du père Jaouin.
Dans le studio, l'immense Daniel Morin. Bonjour. Il paraît que c'est votre camarade, Jean-Louis Etienne. Vous aviez une anecdote à nous raconter sur Jean-Louis Etienne, Daniel Morin.
Alors déjà, quand j'ai entendu Jean-Louis Etienne qui citait du Jean-Jacques Goldman avec Jérôme Boudmerev, je me suis dit, il faut que je descende, il faut que j'intervienne, parce que c'est pas possible. Non, parce que évidemment, quand on entend Jean-Louis Etienne, on se dit, c'est quelqu'un de formidable, un parcours exceptionnel. Mais je voulais souligner quand même le côté escroc de Jean-Louis Etienne. Il y a une anecdote, quoi, que tout le monde ne connaît pas, qui nous avait raconté. racontait il y a quelque temps, c'est que dans sa jeunesse, il avait traversé les États-Unis. Il avait été d'est en ouest, et pour se faire un petit peu d'argent, il s'arrêtait dans les bars et jouait du piano et il faisait du yogourt en français.
Expliquez-nous.
Voilà. Il chantait et Jean-Louis, vous pouvez raconter. Vous ne saviez pas ce que vous chantiez du tout. Vous disiez n'importe quoi, juste avec des mots français. Et c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Le grand Jean-Louis Etienne
est également un escroc.
Racontez-nous
Jean-Louis Etienne. Je me disais. Parce que effectivement, avec quelques accords en septième, on peut faire du blues qui en jette.
Incroyable.
Des accords en septième, c'est pas. Hein, on met un petit septième sur un accord majeur et ça fait tout le truc bluesy, quoi. Et je chantais. Enfin, ça allait au piano et je chantais des trucs que j'inventais en français. Voilà. Et je me disais, pourvu qu'il y ait personne dans ce bar qui soit français ou qui comprenne, je racontais des séries de mots comme ça qui ne voulaient rien dire.
Merci Daniel Morin pour ce beau témoignage sur Jean-Louis Etienne. Merci beaucoup.
Demain, que l'étage du Tibet soit avec vous.
De 7h demain, de 7h55.
Ouais, merci d'être passé en studio. Notre invité, c'est l'explorateur Jean-Louis Etienne qui publie Oser l'autonomie. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bauve et c'est réalisé par Claire Destacan.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, puis je fume.
Pink Martini, interprété sympathique.
Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Faut que ça vous arrive pour comprendre.
Grand bien vous fasse.
Ma mère a dit souvent, si on était toujours heureux, ce serait le bonheur.
Sur France Inter.
Alors Jean-Louis Etienne, on vous pose souvent la question du bonheur. Quel est votre secret du bonheur? Cette émission s'intitule Le bonheur selon Jean-Louis Etienne. Et à propos du bonheur, vous avez une réponse d'une simplicité confondante. C'est quoi la clé du bonheur pour vous?
Ben de faire ce que l'on a envie. C'est une, pour moi, c'est déjà quelque chose de simple au moment où on a envie de le faire.
Et de ne pas le faire à moitié.
Et de ne pas le faire à moitié. Le bonheur, c'est fragile en même temps, quoi. C'est passager, mais il faut le chercher en soi, quoi. C'est la ressource. C'est ce qui m'a poussé à écrire quelque chose sur l'autonomie. Je me rends compte que. Vous voyez, j'ai été médecin, j'ai fait la médecine générale pendant 12 ans après la chirurgie, que j'étais médecin d'expédition, je gagnais ma vie en faisant la médecine générale. Et on rencontre que des gens qui sont en difficulté personnelle ou qui ont des problèmes de santé. Et en étant médecin, on n'est pas obligé, par empathie, de jouer le malade. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que dans la société, il y en a beaucoup qui, par empathie, jouent un peu les malheurs des autres. Mais je trouve que si on veut aider les autres, il faut un peu construire sa propre structure.
Sa cabane.
Sa cabane, sa structure. Et sinon, c'est un peu unijambiste droit cherche unijambiste gauche pour avancer, quoi. Donc ça me paraît important de revenir à des choses simples. Le bonheur, il ne faut pas l'attendre de l'extérieur. Ça, c'est l'héritage pour moi. Il est à cultiver en soi. Et on a des fragilités, bien sûr.
Christophe André.
Moi, j'ai une question un peu naïve de petit garçon. C'est Jean-Louis Etienne, quand vous arrivez au pôle Nord là, en 86, donc vous plantez le drapeau français, vous venez de nous raconter ça. Et alors moi, tout à coup, je me dis, mais alors, il y avait d'autres drapeaux, il y avait des bidons vides, des explorateurs précédents. À quoi ça ressemble, le pôle Nord?
Ben, arriver au pôle Nord, c'est rendez-vous au milieu d'un océan. Parce qu'on marche sur la mer gelée, le pôle Nord est au milieu d'un océan, un océan gelé. Et voyez, si on voulait faire cette émission au pôle Nord, imaginons que France Inter dise la prochaine, vous la ferez au pôle Nord. Il faudrait qu'on marche en permanence. Parce que la banquise, qui est cette couche de glace qui recouvre l'océan, qui faisait 1m80 quand j'y suis allé en 86, qui fait aujourd'hui 1m20, ça fond en épaisseur aussi, elle se déplace, elle est poussée par un courant qui vient du détroit de Bering vers le pôle Nord et vient s'écraser au nord du Groenland du Canada. Et donc quand on part du nord du Canada, comme je l'ai fait, on marche contre ce courant. Et donc, un peu, c'est un tapis flottant de glace. Et donc, quand vous arrivez au pôle Nord, il n'y a rien. Celui qui a été le premier, d'ailleurs, qui était Peary, a planté le drapeau américain. Et il y en a un autre qui a dit, mais moi, Cook, moi, j'étais le premier au pôle Nord. Donc, il y a eu une dispute pour savoir quel était le premier des deux. On ne peut pas laisser de traces au pôle Nord pour la simple raison que la banquise se déplace.
5 minutes après, on n'est plus au pôle Nord, quoi,
oui,
si on s'arrête.
Mais vous voyez, j'étais bloqué sur mon parcours pendant 2 jours, sous le blizzard, sous la tente bloquée. J'avais perdu 16 kilomètres. Vous voyez, ça se déplace, ça dérive beaucoup, la banquise.
Alors, vous avez vécu une vie autonome hein, dans plusieurs de vos expéditions. Ça veut dire quoi, être autonome? En lisant votre livre, on sent bien que ce mot sonne comme une indépendance, une fierté. Pour vous, être autonome, c'est devenir soi?
C'est très ancien. Pourquoi j'ai écrit ce livre, Oser l'autonomie? C'est une journaliste qui était venue m'interroger sur la nature. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais vous me parlez que d'autonomie. Je dis, oui, vous avez raison, en fait. Et l'autonomie a commencé très tôt, en fait. C'est constitutionnel, quasi. J'ai toujours fait appel à mes 10 doigts. Je savais que je n'ai jamais pensé, pendant longtemps de ma jeunesse, jamais acheter quelque chose, mais le faire. Je réparais ma mobilette. Jusqu'à 40 ans, je réparais les voitures. J'adorais ça, faire le diagnostic de quelque chose qui ne va pas, aller dans une case pour chercher quelque chose, vous voyez.
Vous construisez votre première guitare à 14 ans.
Oui.
Vous construisez des luges, des traîneaux sur roulement à billes.
Je construisais mes jouets, en fait. Ouais. Quoi. Et donc, j'ai toujours pensé faire. Et quand j'arrive dans un nouvel appartement, je vais acheter du bois, je fais des étagères. J'ai une table chez moi, c'est moi qui l'ai faite. Donc, si vous voulez, je savais, et ça m'a donné de l'insouciance en fait, cette aptitude manuelle que j'invite à cultiver. Je savais instinctivement, et je peux en parler avec du recul parce que je vois ça, l'image revenait à moi souvent, je savais qu'avec mes 10 doigts, je pouvais toujours faire une cabane, avoir un jardin et des poules, et voir venir. C'était mon truc, ça, voir venir. Et cette notion que je pouvais à un certain moment me retirer, m'arrêter, et me débrouiller, c'était quelque chose qui me donnait de l'insouciance, quoi. Et c'est vrai que être autonome, on peut l'être dans beaucoup de choses, si vous voulez, quoi. Et aujourd'hui, on parle d'être autonome en énergie, on parle d'être l'autonomie alimentaire. Il y a du fun dans la recherche de l'autonomie. C'est une forme d'indépendance, quoi. C'est un petit jardin, c'est son port autonome, moi, j'appelle ça.
Et n'oublions pas que la graine de l'autonomie, eh ben, elle est plantée dans notre corps.
Oui. C'est vrai que, et donc, on a appris en médecine qu'on a le système nerveux volontaire, un moteur, on prend cette bouteille, on la déplace, on l'a envie, voilà. Et le système nerveux qu'on appelle autonome et qu'on appelait système neuro-végétatif. Et ce mot végétatif, je trouve, ne correspond pas du tout. Parce qu'en fait, comme s'il était à l'abandon, comme si on ne s'en occupait pas. Et donc, ceux qui nous écoutent, là, et nous-mêmes, depuis tout à l'heure, on a le cœur qui bat, on respire, on a l'insuline qui régule le petit déjeuner, encore un petit peu. Mais qui s'en occupe? voyez ce que je veux dire? C'est prodigieux quand vous entrez dans le mystère de la vie. C'est extraordinaire. Et donc, ce système nerveux autonome, on a l'expérience. Donc, vous avez l'expérience...
Christophe André.
Ah oui, c'est vrai. Christophe André a l'expérience de pouvoir en avoir la maîtrise par la méditation, l'apaisement. Il y a des yogis, etc. On a une certaine maîtrise, si vous en voulez, de ce système neurovégétatif.
Christophe André.
Ouais, alors moi, je suis désolé, hein, j'écoute avec des tonnes de questions comme ça. C'est l'autonomie, elle est aussi psychologique, évidemment. Il faut être capable, quand on fait ce que vous faites, Jean-Louis Etienne, de se passer de contacts sociaux avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie. Et comment ça se passe pour vous, finalement? Est-ce qu'il y a, au bout d'un certain temps, une forme de manque qui apparaît? Et puis aussi, j'ai une autre question, quand on revient de ces jours où on a été seul, en pleine autonomie, et qu'on replonge dans la société avec ses qualités, mais aussi ses défauts, quoi, la superficialité, le matérialisme, qu'on retrouve les gens qu'on a peut-être idéalisés pendant qu'on était loin d'eux, et puis on s'aperçoit que il faut pas trop idéaliser qui que ce soit. Comment ça se passe tout ça pour vous, l'éloignement et puis le retour à la civilisation?
Alors j'aime bien partir. Il faut comprendre que monter une expédition, c'est moi, je suis un chef d'entreprise en fait, voyez. Une expédition, c'est la partie que l'on voit, la partie émergée, c'est la cerise sur le gâteau. Mais pour la monter, c'est une pyramide de... Il faut trouver les moyens, d'abord l'idée, etc. Constituer des fois une équipe, des fois je suis seul, mais des fois j'étais en équipe, etc. Et l'expédition, on part. Des fois, c'est 2-3 ans de préparation. Donc on est heureux de partir là. Ensuite, il faut la réaliser. Et le retour, quand on revient gagnant, je dirais, quand on a réussi, on a une pêche, si vous voulez, on est dilaté, on a réussi quelque chose qu'on a voulu faire, et comme dans toute réussite, on se réalise. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, mais ne visez pas loin. Dimanche, visez un petit sommet, la traversée d'une forêt, quelque chose qui vous paraît grand, mais c'est certainement à votre portée. Et c'est cette construction que je me suis faite comme ça au fur et à mesure des choses. Et quand je reviens, donc quand on a réalisé son rêve, on est apaisé, on est bien. Parce qu'il y a une ambition dans chaque départ, si vous voulez. Et c'est vrai que quand on vit avec peu, en expédition, on a le minimum. Mais le minimum qui est essentiel. Et on s'aperçoit qu'on met en route les ressources qu'on a en soi. Des ressources d'idées, des ressources de bonheur. Un peu comme des braises sur lesquelles on ne souffle pas assez, vous voyez. Et en expédition, on n'a que ça, ce petit feu intérieur. Des fois, il vous lâche. Des fois, je me suis dit, mais si je pouvais me casser une jambe, vous voyez, histoire de revenir un héros un peu quand même sur une civière, c'est plus glorieux que de dire, je me caille, quoi. C'est, voilà. Et donc, c'est traverser toutes ces petites choses, c'est comme ça. Et quand on revient, on voit que le monde est beaucoup agité, des fois pour des petites choses, quoi.
Quel regard vous portez justement sur cette France heurtée, cette France traversée par une fièvre hexagonale, la fièvre des gilets jaunes? Quel regard vous portez?
Je trouve que la vie politique, elle se nourrit trop de faits divers. J'étais en déplacement, là, j'ai vu que notre ministre de l'Intérieur a prononcé le mot « l'hôpital a été attaqué ». Et il a été attaqué sur le mot « attaqué » qu'il avait prononcé. Et on en fait toute un pataquès sur un mot, vous voyez ce que je veux dire? On peut quand même, à un certain moment, quand on a les responsabilités qu'il a, quand on est sur le feu ardent de ce qui se passe, si vous voulez, avoir peut-être un mot un peu fort, parce que, etc. Sur le coup de l'émotion, bien sûr, il y en a d'autres qui se ruent dessus pour demander la démission. C'est minable, je trouve, voyez. Et donc, ça donne pas une idée très haute de l'univers politique dans lequel on vit en ce moment. Je trouve qu'on se nourrit de choses qui sont... C'est du ping-pong de mots, souvent, et on oublie un peu le fond, un peu.
Question de Marie-Laure Sonnenschein.
Alors, raison de plus pour repartir, découvrir de nouveaux horizons. Vous avez déjà, et depuis longtemps d'ailleurs, un autre projet en tête, celui d'une espèce de bateau à la verticale. Alors, vous allez nous raconter ça pour explorer l'océan Austral.
Alors, l'océan Austral, c'est l'océan qui est autour de l'Antarctique. Hein. Là, on a parlé du pôle Nord, c'est l'Arctique depuis tout à l'heure. Là, on change de pôle, c'est l'Antarctique. Et l'Antarctique, c'est un continent. Le pôle Nord est au milieu d'un océan, le pôle Sud, c'est un continent de glace, grand comme 28 fois la France, et nappé de 2,5 km de glace d'épaisseur sur 28 France. Vous voyez la taille du glaçon géant. Et l'océan dont on parle, c'est l'océan Austral, qui fait le tour de l'Antarctique. Cet immense continent que les marins appellent les 50e hurlants. C'est une zone ventée qui entraîne un courant. C'est loin, cet océan, l'océan Austral. Il y a très peu de missions et toutes les publications se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Et donc, mon interrogation, c'était quel type de vaisseau on peut construire, dessiner pour être bien sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Et donc, c'est un tube, un grand flotteur qui fait 100 mètres de haut. Donc 80 mètres sont sous l'eau et pris dans des eaux stables. Et on va habiter, on va être 8 à bord et on va dériver avec le courant circumpolaire pour étudier cet océan.
Tiens, Divi nous demande sur notre page Facebook comment faire pour participer à l'une de vos expéditions.
Alors écoutez, pour la prochaine, il y a 3 marins marchands. C'est marin ou marine, je ne sais pas si ça se dit au féminin, homme ou femme. D'ailleurs, la première femme, la première commandante sera une femme des Polar Pods. C'est des marins de la marine marchande. Il y a 4 scientifiques qui sont ingénieurs, qui savent faire marcher les capteurs. Et une personne en plus qui sera moi de temps en temps. Donc il faut répondre à ces trois, ces deux critères.
Allez, il est temps de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Les choses vues de Christophe André.
Alors on va redescendre un petit peu en intensité, je suis désolé, après les grands exploits, des petits exploits. Dans le livre de Jean-Louis Etienne, j'ai beaucoup aimé le chapitre où il raconte comment il se débarrasse après un long combat contre lui-même et puis avec l'aide aussi d'un employé de la déchetterie, de vieilles revues, photos, films et autres objets, plein de souvenirs de son passé. C'est compliqué de jeter des objets qui ont compté pour nous ou qui pourraient encore servir. C'est compliqué parce que dans l'évolution de notre espèce, nous avons très longtemps été des nomades, très longtemps vécu dans des environnements où les objets étaient rares et précieux, utiles à notre survie et où l'on ne jetait rien. C'est pour cela que notre vieux cerveau freine volontiers, instinctivement, au moment de jeter. Ça s'est encore aggravé lorsque les humains sont devenus sédentaires et que leurs nouvelles conditions de vie, dans des huttes, des maisons, leur ont permis de tout garder s'ils le souhaitaient. D'abord les objets pratiques pour la survie, puis les objets esthétiques pour le plaisir et enfin les objets ludiques pour se distraire. Et puis, troisième étape, tout est amplifié et chamboulé aujourd'hui à notre époque ultra-matérialiste, ultra-consumériste qui surfabrique, bien au-delà de nos besoins, des objets qu'elle nous incite à acheter, puis jeter, puis racheter encore, pour jeter encore, etc. Ça peut nous rendre fous entre achats compulsifs et accumulation maladive. En psychiatrie, certains de nos patients souffrent ainsi de syllogomanie. Ils sont dans l'impossibilité de jeter les objets, notamment dans le trouble obsessionnel compulsif, le TOC. Ces patients accumulateurs ont du mal à se débarrasser de tout. Vieilles revues, vieux vêtements, mais aussi bocaux, bouteilles vides, etc. C'est-à-dire pas seulement des objets chargés de souvenirs personnels, mais tout ce qui ne s'autodétruit pas. J'avais même un jour rencontré un patient qui avait les moyens et qui envisageait de s'acheter un château afin de disposer de suffisamment de pièces pour tout garder et ne rien jeter. Sans en arriver là, on peut retrouver chez pas mal d'entre nous, dont je fais partie, des formes atténuées de cette syllogomanie. La difficulté à jeter tous les dessins que nous ont offerts nos enfants, année après année. La peine à se débarrasser de vêtements démodés qu'on aime bien, la collection de disques qu'on n'écoute plus, les cadeaux qu'on nous a offerts avec amour. En général, on stocke ça dans un placard. Jusqu'au jour où la réalité nous rattrape et nous contraint. Par exemple, quand on doit déménager et décider alors ce qui va dans les cartons et ce qui part à la poubelle. Ou quand on doit voyager, choisir de mettre dans sa valise seulement ce qui est essentiel. Ses souliers, par exemple, ça peut servir en voyage.
Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans des prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une.
Eh oui, lorsqu'on voyage souvent, on se pose régulièrement cette question. De quoi ai-je vraiment besoin, à part de mes chaussures et de mon traîneau pour Jean-Louis Etienne? Car le but n'est pas seulement d'enlever l'inutile, tout peut être utile, mais de ne garder que l'essentiel. Hélas, lorsqu'on reste chez soi, la tentation est grande de ne pas réfléchir et de tout garder, restant ainsi prisonnier du passé et du futur. Du passé, parce que ce n'est pas facile de se débarrasser d'objets qui racontent notre histoire, notre vie. Et avant d'être un allègement matériel et psychologique, jeter, c'est d'abord un déchirement. Mais ne pas jeter a aussi à voir avec le futur, quel cerveau humain, au moment fatidique, n'a jamais eu cette pensée ? Ça pourrait servir
ça
un jour.
Ça peut toujours servir.
Mais notre vie, bien sûr, se déroule au présent et les souvenirs, comme les prévisions, doivent l'enrichir sans l'alourdir. Il y a d'ailleurs, heureusement, tout un tas de solutions lorsqu'on a du mal à jeter. L'une s'appelle le don, pour les objets qui peuvent servir à d'autres. L'autre s'appelle la dématérialisation. Je ne parle pas de la dématérialisation numérique, mais de la psychologique. On jette les objets, on garde les souvenirs. Et on se rappelle qu'un souvenir restera d'autant plus fort et vivant à notre esprit qu'on l'aura vécu en pleine conscience, en le savourant, en le vivant, au lieu de le photographier, par exemple. Et puis on pense écologie. Les souvenirs ont sur les objets de nombreux avantages. Ils sont biodégradables et embellissent avec le temps. Et vous, cher Ali, vous jetez comme ça, facilement, le cœur léger ?
Les livres, non. Les livres, non. Jean-Louis Etienne, vous consacrez donc un chapitre à l'autonomie qui consiste également à se décharger du fardeau du passé, notamment des objets. Votre but ultime, vous, c'est de vivre avec une valise, un peu comme le Canadien Mike Birch, vainqueur de la première route du Rhum en 78. À 87 ans, il vend tous ses biens. Il a une valise
et un petit bateau.
C'est votre but ultime.
Non, mais j'aime bien ce que disait Christophe André, le mot nomade. On est des nomades, effectivement. Et il se trouve que j'avais un appartement avec deux garages et je devais déménager dans quelque chose sans garage. Donc deux garages de choses qu'on accumule, en fait, pas, je dirais, par facilité. Et là, on commence. Ouh là là, où est-ce que je vais mettre ça ? Donc on fait des sous-tris. Ça, je le jette, mais ça, puis on alimente celui-là, il y a trois tas. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vous dit, je suis désolé, mais à la fin de la semaine, il faut que ce soit vide, quoi. Mmh. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, j'avais une grosse collection de National Geographic, par exemple. Donc, je dis, mais je les regarde plus, je vais sur Internet. Donc, je me débarrasse, ça faisait une tonne. Et tout comme ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces objets-là, ils étaient là peut-être depuis 2-3 ans, mais j'y vais jamais. Mmh. J'y vais jamais. Je ne vis pas avec du tout ces souvenirs.
Mais pourtant, ça a été dur, même pour vous, qui êtes habitué à vivre avec
mais
peu.
Mais ça a été
peu.
Dur. Mais en fait, ce qui est dur, c'est tout d'un coup, il y avait quelques-uns. J'avais construit un lit basculant pour mon premier enfant, pour Elliot, et ça prenait de la place. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Puis je me suis dit, mais attends, dans le bois, c'est du bois, on va le recycler, mais le souvenir, il est en moi, je le porte, quoi. Celui-là, il est éternel, si vous voulez. Puis après, il y avait des bobines de film de 16 mm. Alors, ça ne sert plus à rien, il n'y a pas d'appareil de projection, ils sont peut-être un peu abîmés, c'est déjà numérisé. Mais c'était... Et là, je me souviens, devant la benne, parce que la benne, c'est un milieu hostile quand même. Vous avez du monde qui sont derrière, oh, arrête tes conneries, nous on est pressés, quand vous commencez à réfléchir, vous voyez ce que je veux dire ? Le dernier acte devant la benne. Puis la déchetterie, c'est une drôle d'ambiance quand même. Hein. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, attends, mais c'est que du plastique que je suis en train de jeter. Et je l'ai balancé comme ça.
Il faudra recycler le plastique.
Et je suis reparti de la déchetterie, mais léger. Ouais. J'avais fait cet acte-là, mais toutes les bonnes choses, elles étaient en moi. Quoi.
Et ça fait du bien.
Ah, ça fait un bien fou. Et je voulais surtout ne pas confier à mes enfants le soin de faire le tri. Papa, il aimait ça, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, putain, ce truc-là, on ne va pas le garder. Mais oui, mais il y tenait. Vous voyez ? Donc, clôturé. On part avec rien hein, dans la tombe. Ouais. Quoi. Et donc, je me suis dit, préparons-nous finalement à ne pas faire peser sur les autres le poids de ses souvenirs.
Les Scandinaves appellent ça le rangement des morts. Voilà. Ah. Et notre invité, c'est l'explorateur Jean-Louis Etienne qui publie « Oser l'autonomie ».
Just talk, can we just talk about where we're going before we get lost, let me out thoughts, can't get what we know without knowing. I've never felt like this before, I apologize if I'm moving too far, can we just talk, can we just talk, figure out where we're going, yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. No, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about
get lost.
Maybe our thoughts can't get what we want without
one. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk?
Can we just talk? Figure out where we're growing.
Penthouse view, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can't we just talk?
Can't we just talk? Talk about now.
Before we get lost,
maybe our thoughts can't get what we want without one.
I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can't we just talk?
Khalid, interprété Talk.
Je me suis mis en colère une fois contre le blizzard.
Grand bien vous fasse.
Je suis tapé avec mon bâton de ski par terre.
Ali Rébéi.
Et deux jours après, j'ai eu un blizzard encore plus fort. J'ai l'impression que les éléments ou le matériel prennent une revanche. Donc on sait l'accepter.
Sur France Inter.
Notre invité, c'est l'explorateur Jean-Louis Etienne qui publie « Oser l'autonomie ».
Sous la couche de glace de 2 mètres d'épaisseur, il y a l'Arctique et ses 3000 mètres de profondeur. Seul, cet avion russe au réacteur surpuissant peut transporter les 2,5 tonnes de matériel nécessaires à l'expédition Polar Ship, dirigée par Jean-Louis Etienne.
C'est absolument formidable d'être de retour ici. Pour moi, c'est une très très grosse émotion. Bon, allez, on va la mesurer cette banquise.
Mais pour avoir accès à l'océan, ils doivent d'abord creuser 2 mètres de glace. Le blizzard souffle, il fait moins 25 au thermomètre. Malgré cela, le moral reste au beau fixe.
Bah écoute, ça va bien.
Ça va,
ouais. On y a un petit courant d'air frais depuis tout à l'heure, ouais. Mais...
Quelqu'un a oublié de fermer la porte.
Ce trou dans la banquise sera l'unique accès aux profondeurs abyssales de l'océan. C'est par là que les plongeurs sous-marins, secondés par un robot, pourront s'immerger et partir en quête des secrets de la glace.
Extrait de Thalassa en 2005. Jean-Louis Etienne, vous êtes un observateur privilégié du réchauffement climatique. Pouvez-vous nous dire pourquoi la fonte des glaces au pôle Nord et en Antarctique, la régression de la banquise, eh bien, c'est une catastrophe aux conséquences inéluctables?
Il faut faire simple. Ça se réchauffe, le climat se réchauffe. D'abord, ce n'est pas perceptible, ce n'est pas une valeur populaire, ce n'est pas un sujet de discussion populaire. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Elle est passée de la température normale, on va dire 37, pour faire une comparaison avec notre corps, à 38. Mmh. On est au début des complications. Donc vous voyez, ce n'est pas une histoire de dire « je perçois ». C'est un truc qui se passe sur la durée, depuis un moment. Et la machine climatique, encore une fois pour simplifier, c'est l'échange entre la chaleur tropicale permanente, fait toujours chose sous les tropiques, avec le froid des pôles. Et la Terre, elle a deux fluides pour faire cet échange. Les courants atmosphériques, qui sont rapides, qui conditionnent ce qu'on appelle la météo, le temps qu'il fait, et les courants océaniques qui transportent la chaleur, par exemple, de la Caraïbe vers le nord, c'est le Gulf Stream. Donc, il y a cette machine. Aujourd'hui, l'Arctique, le nord, se réchauffe démesurément. Il y a un emballement du réchauffement dans l'Arctique, parce que d'abord, il change de couleur. Il y a de moins en moins de glace qui réfléchit le rayonnement solaire. Il y a de moins en moins de neige qui réfléchit. Donc, vous voyez, ça devient un capteur et une espèce d'accélération. Donc, effectivement, les pôles ont ce facteur de régulation et l'Arctique est en train de perdre cette puissance de régulation.
C'est imperceptible, mais quelles sont les conséquences de cette fonte, de cette régression de la banquise pour notre vie quotidienne?
Alors, les conséquences, mais elles sont pas là-haut. elles sont ici. C'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui les conséquences du dérèglement climatique. On est à 38. Je fais toujours cette comparaison avec le corps humain pour qu'on l'habite bien. Vous voyez, on dit qu'il ne faudrait pas que ça dépasse 1 degré, 1,5 degré. C'est-à-dire 39, 40. Vous voyez ce que ça veut dire? Il faut imaginer, c'est la masse de chaleur qui est prise à la surface de la Terre qui crée aujourd'hui cette dérégulation. Les cyclones, les sécheresses. Quand Donald Trump dit, regardez, on se caille à Chicago, où il faisait très froid cet hiver, ou à Montréal, ou à New York, il fait toujours froid, c'est un climat continental. Il oubliait de dire une chose, c'est qu'au même moment, dans l'hémisphère sud, donc ambiance globale, il faut regarder ça à l'échelle planétaire, les sécheresses et les canicules sont meurtrières en Australie, en Afrique du Sud, en Asie du Sud-Est. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut regarder ça à l'échelle globale. Et donc, c'est tellement difficile à régresser, c'est une maladie chronique, c'est une fièvre chronique. Et donc, on dit toujours, il va falloir qu'on s'en occupe, il va falloir qu'on s'en occupe un peu comme une fièvre chronique que l'on a soi-même. Et en général, on va voir le docteur au moment des complications. On en est là aujourd'hui. On est à la phase d'entrée dans des complications.
Est-il trop tard, comme l'affirment ceux qui croient à l'effondrement climatique?
Non, il est pas trop tard pour agir, si vous voulez. On peut limiter aussi les dégâts. On a l'intelligence des solutions, on a les moyens techniques des solutions. Maintenant, il faut marier ces solutions avec la marche économique du monde. C'est toute la complexité, parce qu'on est chacun un acteur du réchauffement climatique, par sa mobylette que l'on a prise, sa voiture. On est tous des émetteurs de ce fameux CO2 qui est responsable de l'accroissement de l'effet de serre. Et donc, je dis à tout le monde, soyez efficaces sur votre zone d'influence. On a tous une zone d'influence personnelle dans ses déplacements, dans ses choix de vie, de consommation, personnel, familial, industriel, ça dépend dans la situation dans laquelle on est, politique, mais soyez efficace le maximum sur votre zone d'influence.
Gabriel nous demande, que pensez-vous de l'impact des voyages en avion sur le climat?
Ah ben, les voyages en avion, c'est évident, un avion est beaucoup plus émetteur qu'un bateau à masse, je dirais, à masse transportée. Mais c'est toute la difficulté, effectivement, d'arriver à trouver des solutions qui s'inscrivent dans un mode de vie qui ne soit pas pénalisant pour qu'on ait envie de le faire. Eh bien, c'est à chacun de se dire, tiens, finalement, je pourrais y aller en voiture, ça consomme moins, ou je prends le train, c'est encore moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du niveau de chacun.
Jean-Louis Etienne, vous publiez donc « Oser l'autonomie ». Beaucoup de questions qui nous demandent si être autonome, ce n'est pas faire preuve d'égoïsme. Et l'esprit collaboratif dans tout ça, on ne peut pas compter que sur soi.
Mais non, mais on peut aider les autres quand on est autonome. Vous voyez, je veux dire, plus vous êtes autonome, plus vous pouvez apporter quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure, sinon c'est unijambiste droit, cherche unijambiste gauche pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire? L'autonomie, c'est une trousse à outils. Hein, c'est quelque chose que l'on transporte avec
toi. Il y a quoi
dans
cette trousse à outils?
C'est une capacité d'adaptation. Alors, il y a quelques outils. Moi, ça, je les jette pas, les outils. On a évoqué ce que l'on... Les outils, moi, c'est l'amour. J'ai toujours aimé les outils. Ça. C'est mes prolongements exosomatiques, on va dire. Vous voyez, c'est avec ça que je construis.
J'aimerais qu'on revienne sur la question de l'autonomie et sur la solitude. Vous aimez marcher seul. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes seul dans ces immensités au pôle Nord? Pourquoi est-ce que vous aimez cet état de solitude?
J'en ai besoin. J'en ai besoin, mais je ne vais pas les chercher tout le temps loin, si vous voulez. J'en ai besoin ici, je vis le plus souvent à Paris, et j'ai besoin de cette mise entre parenthèses. On a des endroits pour le faire, on a des moments pour le faire. Je marche, je roulais en scooter, maintenant je marche à pied beaucoup et je me rends compte que je peux me jouer la forêt à Paris. En venant ici à la maison de la radio, on passe sur le pont, sur la Seine, il y avait du vent et je peux fermer les yeux, même pas m'imaginer que je suis sur un chemin que je connais, je revisite des lieux que je connais, que je transporte à moi.
Et vous parlez de retrouvailles du présent intérieur.
Ben oui, c'est se rencontrer soi-même et En expédition, je pars toujours avec mon stock de, on va appeler ça des diapositives avant, des images que je me joue, des fois dans des moments difficiles, je reviens à quelque chose qui correspond en fait à des racines qui vont chercher des images connues qui permettent de me reconstituer, de me reconstruire.
Ça veut dire quoi, trouver son port autonome?
Alors, le port autonome, j'en ai un, c'est dans le Tarn. C'est une maison que j'ai, une partie que j'ai construite, l'autre partie que j'ai dessinée, qui est dans un bois, perché sur une colline. Et quand on voyage beaucoup, on a parlé avec Christophe André de Nomade tout à l'heure, on voyage et puis on dit, oh là là, c'est ici que j'aimerais revenir, construire une cabane, je sais que là je serais bien apaisé, mais est-ce qu'on est capable en fait? Et donc on voyage et tout d'un coup j'ai trouvé ce lieu à 10 kilomètres de chez moi, là où je suis né, où j'ai exercé la médecine, où j'ai été petit, etc. Et je dis, mais quelle connerie. Comme si j'avais découvert le monde partout et j'avais retrouvé ma cabane là où je suis né. En fait, je revenais...
Dans le Tarn.
Dans le Tarn, là. Il m'a fallu un moment pour le digérer. Puis en fait, c'est le lieu que j'ai dans ma tête et je sais que cette cabane-là, j'y suis absolument quand je veux. C'est ça mon port autonome.
Marie Dorsenshine.
Oui, ce que je trouve magnifique en vous écoutant, c'est votre capacité d'émerveillement. Mmh. Parce qu'effectivement, vous êtes allé partout dans le monde, des endroits que quelques milliers d'hommes et de femmes ont foulé, point. Et puis voilà, et à vous écouter, vous avez toujours ces yeux d'enfant écarquillés en nous racontant ce village dans le Tarn ou vos promenades en Pyrénées en solitaire.
Oui, parce que, si vous voulez, dès qu'on se rapproche du vivant au sens large, d'une forêt par exemple. Vous voyez, je vous donne un exemple, vous revenez du pôle Nord où il n'y a rien, c'est stérile. Quoi. Vous revenez dans le Tarn comme je l'ai fait, tout d'un coup, ces arbres verts, vous promenez dans la forêt, vous tapez avec la chaussure quelques feuilles, il y a dessous des scarabées, et vous vous rendez compte que la forêt vierge, je me dis, mais elle est dans le Tarn. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question, c'est regarder. Et le minuscule peut vous révéler des choses merveilleuses, quoi.
Dernière question, Jean-Louis Etienne. Dans 6 mois, une météorite détruit la Terre. Que faites-vous en attendant la fin du monde?
Ah, je me dis, well, maintenant, essayons d'optimiser.
C'est le pôle ou la cabane?
C'est la cabane. Vous savez, il y a une... Christian Bobin m'a donné c'est un autre refuge, un port autonome où chacun peut aller. Christian Bobin, il dit, il existe dans le ciel, pour chacun d'entre nous, une étoile suffisamment éloignée pour que nos erreurs ne l'atteignent jamais. Cette espèce de paradis virtuel. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que tout le monde peut avoir une étoile? Donc j'ai divisé le nombre d'étoiles dans le ciel par le nombre d'habitants. On a plein d'étoiles, si l'on veut.
Merci beaucoup Jean-Louis Etienne. Osez l'autonomie, c'est publié chez Rustica Éditions. Bonne journée à l'écoute de France Inter.
Je ne sais pas si je suis encore vivante. Sinon, quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se bêle en saut dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous. Je suis encore